patria, patriarca, 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 patriarca.
Le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, cause butch. Strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horns.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Thank you.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur Dégenré, l'émission pour déranger, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Aujourd'hui à Dégenré, nous allons écouter du jazz et parler des femmes dans le jazz en compagnie de notre invitée spéciale. Alors, vous venez d'entendre Emma Barrett, appelée Sweet Emma, qui est une pianiste et chanteuse-compositrice de la Nouvelle-Orléans, qui est née en 1897 et morte presque 100 ans plus tard. Emma Barrett, c'est une des premières femmes compositrices pianistes qui a été reconnue comme telle et comme malheureusement beaucoup de femmes musiciennes à cette époque, elle a été... rejetée par sa famille pour oser jouer devant des gens et sortir le soir, jouer ses compositions dans des cabarets. C'est une des plus vieilles pianistes de jazz que l'on connaît. Et elle est célèbre parce qu'elle accrochait des grelots à sa cheville pour battre le rythme et accompagner son piano et sa voix. La chanson qu'on vient d'entendre, elle s'appelle « Good Man is Hard to Find ». Elle raconte à quel point elle déteste son mari et parfois elle a envie de l'envoyer dans la tombe. Et elle nous prévient « je vous croyez-moi, si vous trouvez un gars chouette, eh bien gardez-le parce que c'est vraiment, vraiment très, très rare. »
Comme les femmes dans le jazz sont rares.
C'est ça. Donc voilà, c'est un exemple de femme qui joue de la musique et qui chante du jazz. Elle fait partie des rares exemples que l'on connaisse, mais bien sûr on connaît toutes Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Abby Lincoln, Bessie Smith, etc. Mais ce soir on va aussi vous parler... De l'histoire des femmes dans le jazz. Alors, au tout début, il y avait certaines pianistes ou même saxophonistes, telles que Emma Barrett ou Dolly Adams ou Lovie Austin. Si vous trouvez des vidéos ou des pistes de ces femmes, je vous conseille. Et ensuite, dans les années 30, il y a eu la mode qui s'appelle la swingera. C'était les orchestres de femmes. Alors malheureusement, je peux pas vous en faire écouter ici, mais si vous avez l'occasion d'écouter les Harlem Playgirls, c'est un orchestre entièrement composé de femmes noires. Et surtout, le plus connu, c'est le International Sweetheart of Rhythm, un orchestre de femmes qui jouait toutes des instruments de musique et qui chantait. Si vous avez l'occasion aussi de voir le film très connu de Marilyn Monroe qui s'appelle Certains l'aiment chaud, qui est vraiment assez drôle parce que les rôles sont inversés. Ce sont des hommes jazzmen qui sont à la recherche d'un boulot et qui n'en trouvent pas. Et comme c'est la mode dans les années 30, des orchestres de femmes, ils se travestissent pour intégrer un orchestre de femmes, voilà. Alors qu'on sait très bien que souvent les femmes ont dû se travestir et utiliser des pseudonymes masculins pour pouvoir vivre de leur art et pour pouvoir publier et jouer de la musique, etc. Voilà. Malheureusement, après, dans les années 30, il y a eu la crise et les femmes n'ont pas pu continuer d'occuper l'espace dans les studios et dans les cabarets. Elles ont dû laisser la place aux hommes. Ensuite, dans les années d'après-guerre et jusqu'aux années 60, ça a été assez dur pour les femmes de faire leur place dans le monde du jazz. Malgré Marilou Williams qui est parvenue jusqu'à nous, qui est une pianiste dont on va entendre un morceau tout à l'heure. Et beaucoup d'autres instrumentistes de talent. Il y en avait en fait des dizaines et des dizaines qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Mais qu'en cherchant un peu, on peut trouver, comme par exemple la drummeuse, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle Beryl Booker. Si vous avez aussi l'occasion d'écouter, on n'a pas le temps d'écouter tout ça ce soir, mais... Voilà, donc sachez qu'il y a eu des instrumentistes de jazz très talentueuses qui n'ont malheureusement pas pu avoir la place qu'elles auraient eue. Voilà. Ensuite, à partir des années 60, le féminisme, c'est ça, le mouvement de libération des femmes. Les femmes ont pu s'emparer de l'espace musical, organiser elles-mêmes des festivals de jazz, intégrer des grandes compositions de jazz, voilà. Et on peut voir qu'elles mettent beaucoup plus de temps que les jazzmen pour se faire respecter, par exemple, en tant que compositrice. Et on peut écouter... le titre de Diane Reeve, qui est une jazzwoman chanteuse, compositrice encore vivante aujourd'hui, qui va nous chanter la chanson Endangered Species, qui veut dire espèce menacée, où elle nous dit dans sa chanson qu'elle est une espèce menacée parce qu'elle est une femme et qu'elle est une artiste, et qui plus est, elle a la peau noire. Alors elle dit « Je suis une femme et j'existe, je balance mon poing bien plus que mes hanches, ma peau est noire, mon corps est fort. » Et cette chanson, c'est une chanson de renaissance et non pas une chanson de victime. « Je suis une... j'appartiens à une espèce en danger et je sais d'où vient ma voix. »
But I sing no victim song. I am a woman. I am an artist. And I know where my voice belongs. I am an Indian.
Hollister. I know where my voice belongs. I am a woman, I exist. I shake my fist, sometimes my hips. My skin is black, my body is strong. I sing of rebirth, no victim songs. I am an endangered species, but I sing no victim songs. I am a woman, I am an artist. I know where my voice belongs. I am an endangered species, but I sing no victim songs. I am a woman, I am an artist. I know where my voice belongs. I am a woman, I exist. I shake my fist, sometimes my hips. My skin is dark, my body is strong. I sing of rebirth, no victim song.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. Ce soir, c'est une émission qui parle des femmes dans le jazz. Alors bien sûr, vous imaginez qu'en tant que chanteuse de jazz, pour faire une carrière, il faut correspondre à des critères physiques très très sélectifs. Et aussi, en ce qui concerne les instrumentistes, les musiciennes de jazz, c'est la même chose. Elles ont dû se battre pour pouvoir passer des auditions derrière des paravents, comme les musiciennes...
d'orchestre classique.
C'est ça. Pour pouvoir intégrer les big bands de musique, elles avaient la réputation de ne pas avoir le feeling pour pouvoir jouer de la musique de jazz. Et c'était très dur pour elles d'intégrer ces orchestres. Et elles ont pu... elles ont pu montrer qu'elles se faisaient sélectionner malgré leur appartenance au genre féminin en jouant derrière des paravents.
Donc à partir du moment où on doit faire une sélection, il faut que tout le monde soit caché pour que ce soit vraiment égalitaire. Sinon, le subjectif et notamment la norme imposée et les dominants vont prendre la place, quoi. Et on va nier le talent de certaines personnes. Bien, bien.
C'est tout.
Très bien. Donc vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope. C'est l'émission Dégenrée. Alors aujourd'hui, donc on va un petit peu parler plus largement de ce qu'est le jazz. Parce que par exemple pour moi, le jazz, j'avais un peu cette impression que c'était une musique de musiciens pour des musiciens. Que c'était un cercle très fermé et que quand on est néophyte, on peut pas vraiment percer à jour ce milieu et pas tout entendre, en fait. Qu'il y a différents types de jazz, mais qu'il y en a qui sont accessibles et d'autres pas, parce qu'ils sont dans une sphère trop élitiste ou je ne sais quoi. Et du coup, je savais pas trop où, comment pouvoir écouter tout ça. Mais du coup, avant de vous dire un petit peu ce que j'ai pu en percevoir de ce milieu aussi au travers d'un superbe bouquin, on va dire, de sociologie, de Marie Buscato, qui c'est « Les femmes du jazz, musicalité, féminité et marginalisation ». Et là, vraiment, elle décrypte vraiment ce milieu et c'est super intéressant. Mais je vous donnerai un petit aperçu. Avant ça, on va s'écouter Marie-Lou Williams. Et qu'est-ce qu'on peut dire ?
Eh bien, Marie-Lou Williams, c'est celle dont je vous ai parlé, la première pianiste qui a pu enregistrer des dizaines et des dizaines d'albums et qui a pu et dont les compositions ont été utilisées par les plus grands jazzmen comme Thelonious Monk ou Charlie Parker ou Duke Ellington. Donc, on va écouter le morceau qui s'appelle Hesitation Boogie. Thank you.
Donc voilà, c'était Marie-Lou Williams sur Dégenré. Donc on disait qu'on allait vous parler un peu de milieu et de ce que j'ai pu en comprendre. Alors le jazz se dit, souvent les jazzmen disent qu'ils dénoncent les discriminations sociales, ethniques ou sexuelles, car c'est contraire à l'esprit de liberté et de créativité du jazz. Toutefois, je pense qu'on peut quand même constater une ségrégation sexuée qui scinde les femmes et les hommes autour d'emplois dits féminins et d'autres emplois dits masculins. Pour être un peu plus clair, il y a environ 65% des chanteuses qui sont des femmes. Alors c'est pour ça que je dis chanteuse, parce que si je dis chanteur, ça paraît un peu absurde. Donc c'est 65%, et par contre, il y a moins de 4% qui sont instrumentistes. Et dans ces instrumentistes, il y a aussi des instruments qu'on dit un peu plus féminins que d'autres. Notamment le violon, où on trouve 9% des femmes, le piano 6%, et alors si on va sur la batterie, il y a moins de 2%, la guitare moins de 1%, et chez les trompettistes, moins de 2%. Donc la représentation féminine dans le milieu de jazz, eh ben, elle a l'air de s'organiser tout à fait comme dans la norme sociale dans laquelle on vit. Et comme partout ailleurs, on voit des rôles sociaux féminins et masculins tout à fait construits. Alors, dans ce milieu du jazz, pour devenir et rester musicien de jazz, c'est pas facile du tout, d'après ce que j'ai pu en comprendre. Et accéder à la professionnalisation par le fameux statut d'intermittent, ça demande aux jazzman et aux jazzwoman une hyperflexibilité et une compétition incessante. Ça veut dire que, pour faire court, les jazzman sont leaders d'un groupe, au moins un groupe, parfois ils sont leaders de deux, voire trois groupes, pas plus, et après ils sont recrutés comme sideman par plusieurs autres groupes aux configurations diverses et variées. Alors le leader d'un groupe, lui, il recrute donc du coup les sideman, choisit son répertoire, trouve ce qu'ils appellent des gigs, c'est-à-dire des plans ponctuels pour une soirée, organise les enregistrements et la diffusion des disques. Et quant aux sideman ou sidewoman, eh ben, eux sont au service de la musique proposée par le leader. Et du coup, les occasions de jeu avec ces leaders, ça constitue pour eux l'essentiel de leur cachet. Et en fait, quand on est jazzman, ça veut dire qu'il faut sortir pratiquement tous les soirs. C'est aller dans tous les clubs, se faire un réseau d'affinités pour pouvoir s'insérer dans ce milieu, se faire connaître, être valorisé, pouvoir coopérer régulièrement à différents groupes, à différents projets et accéder à diverses activités. Alors certaines activités sont moins valorisées que d'autres. Alors évidemment, quand on est jazzman ou jazzwoman, ce qui est de bon ton, c'est quand même de faire des concerts et de vendre des disques. Après, il y a quand même l'alimentaire et du coup, il y a les soirées privées, les animations commerciales, l'enseignement et aussi parfois ils font un peu de musique non jazz. Tout ça pour essayer d'avoir quand même un statut et garder leur statut d'intermittent. Parce que jazzman, ça prend tout leur temps, toute leur vie. C'est un long travail de création. Et du coup, pour être sur le marché, il faut être dévoué à l'activité musicale qui est précaire et du coup hyper flexible, puisqu'il faut être partout. Et du coup, on n'a pas beaucoup d'autre temps pour autre chose. Donc la vie familiale, tout ça, c'est un peu en stand-by. Sachant qu'en plus, la durée de vie, généralement, des jazzman, jazzwoman, c'est... En tout cas, pour percer, ça va entre 5 et 10 ans. Après, si on n'a pas percé, je pense qu'il faut qu'on se fasse un peu à l'idée. D'après ce que j'en ai compris, ça a l'air vraiment pas simple. En tout cas, sur le marché, il y a apparemment énormément, énormément de jazzman et jazzwoman par rapport au nombre de personnes qui arrivent réellement à en vivre. Après, vivre de sa musique, c'est quand même, dans ce qu'on peut voir, ça reste quand même pour une élite renommée et masculine. D'ailleurs, on en discutait un peu hier, quand vous allez dans les médiathèques, par exemple, il suffit de regarder les banques de disques comme ça, et on voit tout de suite, c'est flagrant que la quantité de jazzman et de jazzwoman, elle est pas du tout équilibrée, et que c'est pas simple pour tout le monde. On reviendra un peu sur justement cette ségrégation, un peu plus en détail, mais avant ça, on va s'écouter un titre de Billie Holiday, Strange Fruit, mais peut-être tu peux nous dire un petit peu...
Alors c'est un poème écrit par Abel Miropol, qui a été chanté par Billie Holiday pour la première fois en 1939. C'est la version qu'on va entendre maintenant. Donc Billie Holiday, c'est une des chanteuses de jazz les plus connues, qui est née en 1915 et est morte en 1959. Et cette chanson, Strange Fruit, elle parle des lynchages des Noirs qui avaient lieu dans tous les États-Unis et notamment dans le sud des États-Unis. Et les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles et du sang sur leurs racines, des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud, un fruit étrange suspendu au peuplier. Les yeux révulsés et la bouche déformée, le parfum des magnolias, puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle.
C'est très imagé, mais c'est très parlant. Hein, ça a le mérite d'être clair. Donc on va écouter Billie Holiday. De retour sur Dégenré, 97 FM. Alors, Donc on disait que pour les femmes, c'était pas forcément évident. Et notamment, il y a un pourcentage de chanteuses donc assez élevé. C'est un peu ce qu'on trouve le plus... Enfin, en tout cas, les femmes, quand elles sont présentées et qu'elles elles sont quand même dans ce rôle de chanteuses de jazz. Et alors, dans ce statut de chanteuse de jazz, eh ben c'est pas évident de se faire reconnaître et avec son talent, sa technique et il y a des différences très marquées et évidemment elles sont très marquées pas forcément par les femmes entre elles mais par les instrumentistes et donc beaucoup les hommes qui vont distinguer entre le jazz vocal qui n'appelleront pas forcément jazz vocal parce qu'ils sont pas dans l'idée que la voix est un instrument. Le jazz commercial et le jazz qui est sexué parce que les chanteuses sont quand même enfermées dans des rôles musicaux très féminins, en tout cas très codés. Et du coup, elles sont... alors, c'est ça qui est très paradoxal aussi dans ce milieu, c'est qu'elles sont dénigrées parce qu'elles sont trop dans la séduction. Mais en sachant que c'est quand même un rôle qui est partie intégrante de leur profession, puisqu'elles sont, enfin je le dirais un peu plus bas, c'est un peu, enfin il y a toute une scène quoi. Donc et les jazzman de toute façon ils vont le présenter comme ça, c'est une chanteuse, enfin la voix c'est un métier de femme et puis de toute façon c'est par nature elles sont destinées à ça quoi. Alors, elles ne sont pas du tout considérées par les musiciens comme participant au fonctionnement de ces réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, qui organisent l'emploi du temps du jazzman. Il y a quasi jamais de side woman, c'est-à-dire que quand vous êtes jazzman, alors il y en a quand même quelques-uns qui sont chanteurs, mais souvent quand ils sont chanteurs, ils sont aussi instrumentistes. Du coup, ça leur confère d'autres ouvertures, d'autres possibilités. C'est quand même un peu bien d'être chanteur dans ces cas-là, parce que ça ouvre à d'autres possibles. Par contre, quand on est une jazz woman et qu'on chante très difficilement, on va être appelé dans d'autres groupes en tant que side woman, aussi bien pour chanter que pour être instrumentiste. Mais de toute façon, c'est très cantonné, très fermé. Et vivre de ça, même les plus réputés ne vivent pas du jazz, quoi. Ça se passe pas vraiment comme ça. Alors du coup, dans ce réseau social là qui ne fonctionne pas du tout pour elles, en effet, les chanteuses, c'est elles qui recrutent, mais elles sont pas recrutées. Ça veut pas dire pour autant qu'elles seront leaders du groupe, parce que ou en tout cas, elles sont comme disent certains instrumentistes reconnus, machin. Elles sont pas légitimes. Ce ne sont pas des leaders légitimes. Et les instrumentistes jouent avec une chanteuse pour des raisons évidemment alimentaires. Parce que dans la sphère musicale, il y a une hiérarchie et du coup, il y a une très grosse distinction entre le travail des instrumentistes et celle des chanteuses. Par exemple, on peut voir les instrumentistes sont complètement dévoués à la création, inventer de nouveaux... ils ont une rhétorique très particulière aussi quand ils parlent de leur musique. Tout est dans le langage et dans la rhétorique et c'est très formel. Et du coup, c'est le discours musical. Ils créent des musiques originales, des compos. Ils réécrivent les rythmiques, les harmoniques... ils sont beaucoup dans l'improvisation instantanée et souvent d'ailleurs ils s'attachent beaucoup plus à ces recherches de sons et ces recherches d'impro et d'échanges de musique, de jam, tout ça, que réellement le côté mélodieux pour les non-initiés en tout cas parfois ça peut sembler un peu discordant ou des choses comme ça, mais parce qu'ils sont vraiment dans un travail de création. Et du coup, ils vont distinguer ça des chanteuses à la voix, puisque elles sont pas dans ce truc d'essayer des choses discordantes. Elles sont dans un registre de plus mélodieux. Elles apportent un texte. Elles vont donner du corps au texte. La chanson est censée accompagner donc cette voix et ce texte, et du coup ça serait les reléguer un peu au second rôle, les instrumentistes, cette idée de accompagner la voix et du coup les mélodies et l'interprétation pour les jazz, en tout cas les instrumentistes, c'est considéré comme secondaire. L'essentiel de l'énergie étant consacré au moment d'improvisation, d'écriture de composition, d'arrangement et ça dans les styles aussi bien classiques, modernes ou improvisés. Donc voilà, alors il y a quelques instrumentistes quand même quelques improvisations vocales, et on appelait ça le scat. Mais comparé aux improvisations évidemment des instrumentistes, ça a une importance secondaire, et le travail réalisé, ça reste quand même un travail de la voix, et la voix n'est pas un instrument, donc du coup ça reste de faible intensité, ça apporte pas toute cette création, c'est pas dans l'acte, c'est un truc qui est là, c'est une essence, une nature de la femme, enfin c'est pas quelque chose qu'on apporte, quoi. On l'a ou on l'a pas, après voilà. Donc voilà, il y a cette différence très très marquée de musique donc complexe, créative et originale, et le jazz vocal par contre qui est souvent relégué à quelque chose de plus commercial, une musique d'ambiance, simple à écrire, facile à écouter. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'elles sont cantonnées dans leur rôle de voix, et que du coup c'est d'autant plus difficile de percer dans ce milieu, puisque elles sont enfermées dans un registre et elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, et comme en plus elles sont pas à recruter, elles vont pas être amenées à faire beaucoup de projets, quoi, à l'inverse des jazzmen qui passent leur temps à faire des milliards de projets partout, justement pour être tout le temps dans cette dynamique, quoi. Et on va continuer un peu sur les chanteuses sérieuses et dites sérieuses et qui sont quand même un peu chroniquées et un peu reconnues, et celles qui le sont moins et qui sont du coup reléguées au jazz dit commercial. Avant ça, on va quand même écouter une chanteuse que j'ai découvert au hasard d'un fly, et qui devrait être en concert bientôt, je pense notamment dans une petite salle, le Prunier Sauvage à Grenoble. Son concert devait avoir lieu le 9, mais il avait été reporté, donc elle devrait rejouer incessamment sous peu. Et donc du coup, elle est de la région, et vraiment le hasard a fait que je suis tombée sur un fly, je me suis mise à écouter pour voir un peu ce que ça donnait, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est très varié, c'est travaillé, enfin on sent beaucoup d'influence. Alors il y a le morceau qu'on va écouter est beaucoup plus jazzy, mais les autres morceaux, on sent les influences jazz, mais pas que, il y a un peu des rythmes hip-hop, enfin il y a un travail vraiment très varié, très intéressant et très agréable à entendre. Du coup je vous laisse écouter Miss White on the Drunken Piano. Alors l'accent est pas génial, mais j'espère que vous aurez compris.
Had the skin of rivers, faces in the watery eyes of May. World clever, raring on price is. We walked along the cruise, going sway. Blowing wind won't last 3 days. A breeze of smiles and delay. Walked along the cruise, going sway. Blowing wind won't last 3 days.
Blowing wind won't last 3 days. A breeze of smiles and delay. Walked along the cruise, going sway. Blowing wind won't last 3 days. Blowing wind won't last 3 days. A breeze of smiles and delay. Walk along the green sky and sway, blowing wind down the sunny days. Oh my dear friends, we were beautiful, going up the lines of summer, resting our pains under the sunshade, touching a leaf with young fingers, blowing the wind down the last 3 days. A breeze of smiles and lay. Walked along the cruise, going sway. Blowing wind of last 3 days. Blowing wind, last 3 days. A breeze smiles and lay.
walked long cruise going sway. Blind wind down last 3 days.
Blind wind Whoa. Last 3 days. I breeze is passing late. Walked long cruise going sway. Blind wind down last 3 days. Blind wind Whoa. Last 3 days. I breeze is passing late. Walked long cruise going sway. Blind wind down last 3 days.
Anything, I saw your wings in a fresh dew. Whether thirsty or bitten, by the way, we're wise true. Blowing wind for the last 3 days, I breathe smiles and lay. Walk along the cruise going sway. Blowing wind for the last 3 days, blowing wind for the last 3 days, I breathe smiles and lay. Walked along the cruise going sway. Blowing wind for the last 3 days,
blowing wind for the last 3 days, I breathe smiles and lay. Walk along the cruise going sway, blowing wind down last 3 days, blowing wind down last 3 days, I breathe smiles and lay. Walk along the cruise going sway, blowing wind down last 3 days, blowing wind last 3 days, I breathe smiles and lay. Hey, walk along the cruise going sway, blowing wind down last 3 days.
Vous êtes toujours sur Radio Kaleidoscope 97 FM et c'est l'émission Dégenrée, les femmes de jazz. Alors, les chanteuses sérieuses. Donc oui, en effet, il y a une catégorie de chanteuses sérieuses et de chanteuses commerciales. Alors, celles qui sont sérieuses, elles sont un peu valorisées, leur musique est respectable, mais toutefois, souvent, elles sont... très souvent, elles sont connues, en tout cas... sur un seul projet d'envergure dans toute leur carrière, quoi. C'est pas elles multiplient pas à foison les expériences comme les hommes. Ça reste des opportunités bien moindres, donc faut pas rater le coche. Et comme le disait tout à l'heure, la façon de travailler est différente et d'appréhender la musique. Entre les hommes qui sont à fond dans la rhétorique et qui vont du coup, même en parlant de leur musique, employer un langage très, très formel, très intellectuel, les chanteuses, elles fonctionnent plus au feeling. Et notamment quand elles se retrouvent avec leurs sidemen et qu'elles veulent... faire des arrangements ou qu'elles ont des choses un peu dans leur tête, elles vont fredonner. Et ça, je crois que ça exaspère un peu les sidemen parce que eux, ils fonctionnent sur des grilles, sur des choses très concrètes, tout ça. Et quand on leur parle pas et qu'on fredonne quelque chose de trop feeling, trop dans la subjectivité, comme ça, du son, c'est juste du son. Eh bien, ils trouvent ça pas forcément très ni très clair ni très sérieux. Et du coup, ça les conforte dans l'idée que la voix n'est pas un instrument et que ça vient d'une essence de la femme, d'une expression naturelle qui continue d'enfermer du coup dans les stéréotypes et rendent une reconnaissance difficile de leur travail. Ce qui accompagne aussi cette voix, c'est un peu la construction d'un imaginaire érotique de ces femmes. Respectables, mais qui doivent être séduisantes dans l'expression naturelle de la féminité. Parce que, à l'inverse des hommes qu'on voit dans ces groupes-là, dans ces compos, ils sont souvent habillés de façon assez sobre, pas forcément coiffés, ils sont tout à leurs instruments, tout à leur musique. Par contre, les femmes sont souvent au devant de la scène et elles sont très apprêtées, très bien coiffées, très bien maquillées, très soignées. Et elles donnent donc corps aussi à leur voix, quoi. Et il y a tout un travail scénique du corps, de la voix. Et du coup, il y a ce qu'on peut appeler une performance scénique. Et le public les regarde. On distingue aussi dans ces expressions comme ça de femmes qu'il y a deux sortes de femmes. Alors, ce qu'ils appellent les femmes-femmes intimes, parce qu'au cas où on n'aurait pas une idée de la femme intime, c'est des femmes-femmes intimes, pour être vraiment féminin, hein, parce que sinon c'est pas assez féminin. Et les femmes-femmes énergiques. Et du coup, les femmes-femmes intimes, c'est plutôt une voix grave, suave, veloutée, avec une tenue sobre et élégante. Et les femmes-femmes énergiques, c'est les voix plus souples, plus fluides, plus chaleureuses, avec des tenues qui attirent l'œil et des interactions plus prononcées du regard et des attitudes avec des échanges avec les instrumentistes de regard et de petits gestes, un peu plus swingy comme ça, là. Mais attention, ça reste une séduction de qualité. C'est pas la femme enfant, la femme vulgaire ou non non. Les femmes du jazz, quand bien même elles seraient jazz commercial, ça reste des femmes de qualité. Il y a un sérieux comme ça, il y a une espèce de mythe quand même qui reste. Et je pense qu'on l'a un peu tous. Hein. On voit ces images de femmes un peu fatales, mais pas mais distinguées, hein. Quelque chose comme ça, avec ces robes un peu longues, suggestives, mais voilà, dans la suggestion, pas dans la provocation non plus. Donc il y a ce gros mythe des divas du jazz. Et du coup, ben c'est très difficile pour des chanteuses de sortir de c'est difficile et puis c'est dangereux en fait parce que on va les critiquer pour ça, mais si elles ne font pas ça, elles vont quand même être encore plus dénigrées. Donc il y a un truc très très pervers quand même dans ce rôle de jeu quoi. Et pareil, on a tendance du coup à dire donc que c'est une expression naturelle de la féminité, mais on voit bien que en fait pour accéder à tout ça, la plupart elles ont un travail de théâtre, de mise en scène, de apprendre à se maquiller, à se tenir. Le travail de la voix souvent se fait face à un miroir parce que les expressions aussi comptent énormément puisqu'il va y avoir de l'interaction. Et que pour les instrumentistes, en fait, il n'y a pas tout ce travail-là, quoi. Donc ça n'a rien de naturel, puisqu'il faut quand même bien s'entraîner. Hein. Ça ne vient pas tout seul, tout ça, cette expression de la féminité. Cette évanescence sensuelle, naturelle de la femme, très travaillée. Donc on ne devient pas chanteuse de jazz comme ça du jour au lendemain, ne croyez pas ça. Quand même, aujourd'hui, les chanteuses, elles refusent quand même d'être enfermées dans ce rôle de voix de mélodique, là. Et certaines, elles osent réaliser des bruits incongrus, des petits cris, faire des impros. On trouve ça dans les musiques un peu plus contemporaines ou jazz moderne, et puis des influences de musique du monde. Mais voilà, elles se mettent en danger quand même, faut le savoir. Elles ont tout approuvé, quoi. Donc voilà. Pour revenir aussi sur cette idée de comment en fait même dans les chroniques l'acte musical est lié quand même à plaire au public et à une expression, enfin c'est pas, on va pas parler de la personne que dans une rhétorique de musicale, il y a eu un article en 2003 dans Le Monde sur Nina Simone qui disait donc: Nina Simone exprime certes la souffrance du peuple noir dans ses difficultés amoureuses et personnelles, mais elle incarne aussi cette voix chaude, cette voix mâle, petite fille, mec, adolescente trahie, femme jusqu'au bout d'être femme. Cette voix et son rythme, ce tempo, la mise en place parfaite dans son corps de femme, femme jusqu'au bout, corps généreux, dépassé, corps d'une beauté d'après. Donc là, si on n'a pas encore compris, le corps de la femme est mis en scène pour sa voix. Donc voilà, c'est quand même très difficile pour ces chanteuses de jazz de sortir de ces normes. Et alors on trouve quand même des on va dire des transgressions, mais qui sont des transgressions quand même qui restent sexuées. Quand bien même, dans certains cas, elles sont amenées à faire des jams avec des instrumentistes, elles sont pas en compétition comme les instrumentistes le sont quand ils font leurs impros et qu'ils font des échanges et tout ça. Elles sont conviées à venir sur la scène, elles sont toutes seules, donc il n'y a pas une autre chanteuse à ce moment-là ou un autre chanteur qui va jammer. Donc elles vont avoir une performance vocale intéressante, mais pas dans un, mais qui reste quand même cadrées en fait. Elles peuvent pas tant sortir que ça des règles masculines, quoi. Et enfin imposé par le masculin, parce que les règles masculines elles permettent quand même plus de liberté aux instrumentistes que aux chanteuses. Donc voilà, ça c'est alors c'est si vous voulez, en tout cas si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un peu plus sur cet univers des femmes et des voix de femmes, je vous incite une fois de plus à lire ce livre de Marie Buscato, Femmes du jazz. En attendant, on va s'écouter un petit morceau de Anita O'Day.
Oui, Anita O'Day qui va interpréter Sweet Georgia Brown. Et c'est la captation d'un festival de jazz à Newport en 1958. Anita O'Day, elle est célèbre pour ses interprétations et sa maîtrise du bebop.
Sweet Georgia Brown. Two left feet, but oh, so neat. Sweet Georgia Brown. They'll sign a woman die for sweet Georgia Brown. I'll tell you why. Oh, I don't lie much. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Said she came, why it's a shame how she comes him down. Can't get a fella she ain't met. Georgia named her, Georgia claimed her, sweet Georgia brother.
Did not feel it at all from needing sweet jobs. how she cools him down. It's been said she knocks him dead when she lands in town. Now,
du jazz sur Dégenré. Donc on vient de voir un peu le milieu du jazz, les chanteuses, leur reconnaissance difficile de leur statut de musicienne. Et donc dans ce lot, il y a les instrumentistes. Et chez les instrumentistes, donc on a vu au tout début qu'il n'y a que 4% de femmes dans ce milieu-là. Mais les instrumentistes, elles sont, on va dire, quand même plus considérées. Elles sont même... appelées comme des, enfin en tout cas vues comme de sacrées nanas, et mais faut savoir qu'elles n'apparaissent en tout cas dans le jazz français que dans les années 80. Avant ça, où elles étaient, on ne le sait pas, mais en tout cas pas très reconnues. Alors à de rares exceptions près, ces femmes quand même viennent d'un milieu où elles additionnent quand même des ressources familiales, scolaires et professionnelles qui leur permettent de baigner quand même dans un environnement qui va faciliter leur accès à la musique et à ce milieu du jazz. Donc elles vont entrer assez facilement et assez rapidement dans le milieu du jazz, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles vont avoir autant d'opportunités que les garçons. Leur réseau informel d'affinité et de sociabilité, elles arrivent souvent à le constituer dans la grande partie des cas parce qu'elles ont des petits copains musiciens. Donc, faut le savoir, ça reste quand même très présent. Et toutefois, elles sont quand même très à l'aise dans ce monde masculin. Elles sont souvent un peu... elles ont cette étiquette de garçon manqué. Et c'est assez facile pour elles, du coup, d'être dans ce copinage masculin. Elles jouent le jeu pour pouvoir, du coup, s'exprimer et avoir leur place. Comme on peut le voir dans d'autres métiers, dans d'autres branches artistiques, où en effet, ben, les femmes, quand elles accèdent à des branches dites plus masculines, il faut qu'elles s'imposent. Et quand bien même elles sont à l'aise et elles y arrivent, il faut quand même qu'elles soient dans un rôle et dans un jeu pour pouvoir vivre. Donc du coup, comme on le disait, souvent elles ont des petits copains musiciens, ce qui fait que ça va, elle va à l'inverse des chanteuses, pas du tout être dans un rapport de séduction, ni un travail de séduction, ni avec les collègues, ni avec le public. Leur tenue ne sera pas du tout travaillée de la même façon. Souvent, c'est des tenues unisexes, comme on disait tout à l'heure. Des tenues assez confortables, elles ne vont pas forcément être coiffées ni maquillées de façon apprêtée, quoi. Et elles ont souvent un peu cet air un peu fermé, concentré, tout à leur musique, quoi, ou à leur instrument en tout cas. Et du coup, elles accèdent à ces réseaux informels par le biais de leur conjoint, ce qui à la fois est une aide, mais à la fois les contraint quand même à être dans un travail au quotidien avec un compagnon, et du coup les enferme encore dans des rôles et dans des choix et des opportunités. De fait, elles auront moins d'opportunités aussi. À la fois ça leur ouvre des portes et à la fois ça leur enferme. Donc c'est un peu ambigu comme trajectoire. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a eu une époque, il y a eu donc des groupes féminins. Aujourd'hui, il y en a aussi. Mais c'est aussi bien de la part des femmes instrumentistes que des hommes. C'est assez ambigu cette histoire de groupe féminin. C'est à la fois elles ont cette crainte du dénigrement parce que quand elles sont que des femmes, il y a quand même ce truc que elles sont moins capables ou moins créatives. Enfin, c'est une difficile reconnaissance. Et en même temps, elles reconnaissent que c'est une expérience utile et que c'est quand même chouette de se retrouver entre femmes instrumentistes pour échanger sur tout ça. Donc ça reste un milieu, le jazz, aux contraintes complexes pour les femmes. Et pour accéder comme ça à cette reconnaissance, eh ben, une fois de plus, il faut travailler beaucoup plus. Et ça les met dans une précarité souvent plus difficile. Et puis aussi, étant donné que c'est difficile d'être reconnue, eh ben, à un moment, elles abandonnent aussi plus vite, quoi. Et il y a des carrières qui se font pas parce que c'est trop de contraintes, trop d'abnégation et... pour au final parfois peu d'opportunités. Donc voilà, le milieu du jazz, c'est pas que négatif, hein, puisqu'on écoute des morceaux juste sublimes, mais il y en a beaucoup plus, on n'aura pas le temps de tout écouter. Mais là, on n'aura qu'à écouter Nina Simone, Four Women, et après notre invité va nous faire des portraits de Nina Simone.
Alors le morceau il s'appelle « Quatre femmes », c'est le portrait de quatre femmes esquissées par Nina Simone. Le premier portrait, c'est « Ma peau est noire, mes bras sont longs, mes cheveux sont crépus, mon dos est robuste. Pour supporter la douleur qu'on m'inflige encore et encore, mon nom est Tante Sarah. » Le deuxième portrait, c'est celui de Sifronia qui dit que « Mon père était riche et blanc, et il a forcé ma mère tard, pendant une nuit. » Le troisième portrait, c'est celui de Sweet Thing, dont la peau est cuivrée et les cheveux lisses et beaux, et les hanches nous invitent. Les lèvres sont comme le vin. Je suis à vous si vous avez de quoi payer. La dernière, c'est Peaches, qui est noire et rude, et qui va tuer la première mère qu'elle voit, parce que sa vie a été trop dure. Elle dit « Je suis terriblement amère ces jours-ci, parce que mes parents étaient des esclaves. »
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sifronia. Thank you. spine. My hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing.
Sur Dégenré, et nous avons invité Hélène pour nous parler un peu de, notamment de Nina Simone, qu'elle affectionne, et comme nous aussi d'ailleurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Eh ben, donc pour faire un rapide petit portrait de Nina Simone, alors elle est décédée il y a pas si longtemps, hein, elle est décédée à 70 ans en 2003, donc ça reste un auteur contemporain, enfin de mon point de vue quoi. Elle est née en 1933 en Caroline du Nord, donc on est quand même bien dans le sud des États-Unis, hein, et ça va beaucoup marquer sa carrière. Alors elle apprend le chant et le piano à l'église locale depuis qu'elle est toute petite, et du coup elle devient rapidement une célébrité locale, en fait. On s'aperçoit très vite qu'elle a des dispositions pour se faire, et on va l'encourager à continuer le piano, à chanter et tout, mais elle se voit plutôt comme... elle aimerait plutôt être concertiste classique, en fait, et c'est vers ça qu'elle aimerait se diriger. Son grand rêve, ce serait d'être la première concertiste noire des États-Unis et tout. Et ça, par contre, ça va pas du tout marcher, parce que déjà tu es une femme, déjà tu es noire, du coup il y a bien peu de chances que tu sois autre chose que jazz women, en fait. Et du coup, ça restera un grand regret, en fait, dans sa vie, même si, en effet, elle a acquis une grande célébrité par le biais du jazz, hein. Ça reste quand même un regret véritable. Et du coup, elle va utiliser quand même ce moyen-là pour militer, parce que c'est une militante de la première heure, quoi, Nina Simone. C'est aussi pour ça que je la trouve chouette. Et elle a des chansons qui sont vraiment engagées. Bah là, on a écouté Four Women. Bon, bah, les choses sont très claires, quoi. C'est quatre stéréotypes de femmes noires très, très bien décrits. Il n'y a pas de doute sur le côté revendicatif et militant qu'il y a derrière cette chanson. Et donc, Elle commence à faire des concerts relativement jeunes. Alors un petit peu comme Emma Bennett qu'on écoutait tout à l'heure, il y a cette idée que c'est quand même pas trop la place d'une femme d'être derrière un piano dans un bar enfumé et pas forcément très bien fréquenté. Et du coup, c'est aussi ce qui va l'inciter à adopter le nom de Nina Simone, qui est pas son vrai nom à l'origine. Je sais plus comment elle s'appelle, Eunice Wyman quelque chose, enfin c'est pas du tout son vrai nom normalement. Et malgré tout, à partir du moment où elle commence à avoir du succès, parce que il arrive un moment où le café dans lequel elle officie par saison fait sale comble tous les soirs grâce à elle. Et du coup, elle finit par être un peu obligée de reconnaître que cet argent qu'elle gagne vient de là. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle va un peu couper les ponts avec sa mère qui accepte pas trop, elle qui est très pieuse en plus, qui accepte pas trop que sa fille aille jouer la musique du diable dans des bars. Ça fait pas très classe, quoi. Et du coup, voilà. Et donc, sa carrière se lance un peu comme ça. Et puis, du coup, son premier album, il sort en 1958. Ça s'appelle Little Girl Blue. Il a été réédité depuis, avec comme titre, My Baby Just Cares For Me, parce que c'est la chanson qui reste vraiment la plus connue, peut-être, de Nina Simone. Mais il y en a plein d'autres. Et ce qui est aussi vachement chouette chez Nina Simone, je sais pas si vous avez déjà écouté, il y a pas mal d'albums qui sont des lives, et elle parle vachement à son public, elle raconte des tas de trucs, et elle raconte d'où viennent les chansons, pourquoi elle les a écrites, elle fait un peu des blagues aux gens et tout. Enfin, c'est vraiment, ça devait être un truc vraiment chouette que d'assister à un concert de Nina Simone, parce qu'elle est pas... Elle n'est pas juste à s'asseoir et à jouer son truc et puis après à plier ses affaires et à dire bonsoir et merci. Du coup, ça devait être un côté un peu sympa. Et puis c'est aussi comme ça que du coup elle a commencé à dire ce qu'elle pensait aussi sur un certain nombre de sujets. Enfin là, dans les années fin 50, début 60, on est en pleine lutte pour les droits civiques et du coup, elle s'investit vachement pour ça. Elle va composer un certain nombre de chansons. Mississippi Goddam est restée vraiment très connue. Elle a repris Old Jim Crow, qui est du nom des lois Jim Crow qui entérinent la ségrégation raciale aux États-Unis. D'autres qui savent comme I wish I knew how it would feel to be free, j'aimerais savoir comment ça fait d'être libre. Enfin, il y a quand même un certain nombre de titres comme ça. Et puis elle milite plus particulièrement pour une émancipation des Noirs qui soit une émancipation violente. Enfin, elle croit pas trop elle respecte beaucoup Martin Luther King, hein, quand il est assassiné. Elle fait un concert 3 jours après qu'elle dédie entièrement à Martin Luther King et tout. Mais pour elle, c'est pas forcément la bonne voie. Enfin, dans Mississippi Goddam, elle le dit très clairement, quoi, que on leur dit oui, vous allez obtenir petit à petit vos droits, mais allez-y doucement, soyez pas trop revendicatifs. Ça, c'est quelque chose qu'elle récuse largement. Et du coup, on la trouve bien plus proche de courants comme celui de Malcolm X ou de gens comme ça. Du coup, c'est quand même des prises de position qui sont fortes, quoi. Et du coup, la carrière de Nina Simone, elle est quand même longue, hein. Elle est marquée par nombreux voyages, puisqu'elle quitte les États-Unis autour de 70, et puis elle va habiter au Libéria, elle va habiter en Suisse, elle va habiter aux Pays-Bas, et puis elle va finir par s'installer en France au début des années 90. Et puis jusqu'à sa mort en 2003, elle continuera de faire des concerts et elle est de plus en plus reconnue de par le monde. Donc bien sûr, enfin, elle fait partie des grandes dames du jazz pour lesquelles ça a vraiment marché, quoi. Et elle est pas, alors évidemment, hein, comme on disait tout à l'heure, elle est notamment connue pour sa voix, et elle joue du piano, ce qui fait partie des instruments les plus joués par des femmes, comme on voyait dans les statistiques tout à l'heure. Mais c'est quand même un certain nombre de compositions qu'elle chante et tout. Enfin, je pense qu'elle a gagné sa reconnaissance largement, quoi. Qu'elle fait partie de celles qui sont vraiment très reconnues. Mais quelle étonnante personne, ouais, je pense.
It's the weight of your load. It's a sliver of glass. It's light, it's the sun. It's night, it's death. It is nothing at all. Down the hall, the sun.
the moon floating free, the curve of the slope. It's an N, it's a B, it's a reason for hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the promise of spring, the joy in the heart. Um pouco sozinho. A spear, a spike, a point, a nail, a drop, the end of the tale.
Bonsoir, donc on est toujours sur Dégenré et c'était Mina Agossi.
Oui, c'était Mina Agossi qui est plutôt une représentante du jazz d'aujourd'hui, disons, puisque elle, je sais pas, elle doit avoir une petite quarantaine d'années à tout casser, quoi, quelque chose comme ça. Et du coup, elle est un peu représentatrice d'un courant plus moderne que ce qu'on a entendu jusqu'à présent, hormis Miss White de tout à l'heure qui était vraiment d'aujourd'hui. Et c'est toujours une chanteuse, hein. On est quand même bien dans le cliché décrit, mais par contre elle compose beaucoup et elle fait plein de reprises aussi qui sont souvent vraiment chouettes. Et du coup c'est une personne qui est intéressante à écouter. Enfin, il y a un certain nombre d'albums maintenant, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'elle marche bien et qu'elle tourne un peu partout. Du coup il doit y avoir au moins 5 ou 6 albums que je vous invite à découvrir, parce que c'est vraiment étonnant. Je trouve qu'elle a une façon d'utiliser sa voix qui est quand même bien différente des chanteuses qu'on a pu qui sont illustrées dans le jazz dit un peu peut-être traditionnelles comme les Ella Fitzgerald et Billie Holiday. Elle utilise beaucoup sa voix pour marquer les rythmes et ça c'est assez... Enfin, pour moi, c'était un petit peu nouveau en fait d'entendre ça. Et du coup, enfin, je connais pas non plus des tonnes, mais du coup, c'était chouette aussi. Souvent, c'est dans une plutôt dans une petite formation. Par contre, elle est genre avec une contrebasse et un batteur, par exemple. Et c'est souvent des formations un peu réduites comme ça. Et mais du coup, c'est aussi pour ça que ça peut donner pleine mesure à sa voix. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien. Du coup. Voilà, ouais, je vous invite à découvrir cette chanteuse qui témoigne quand même aussi de la difficulté que ça a été pour elle de se faire reconnaître comme compositrice. On reste, enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure reste quand même bien valable, hein, encore aujourd'hui et encore pour des gens qui sont reconnus. Elle a eu beau chanter pendant des années, il a encore fallu un certain nombre d'années pour qu'elle soit reconnue comme compositrice. Donc, on est quand même.
Oui, je pense qu'on peut bien voir. Enfin, on a vraiment cette idée que les chanteuses, elles ne font pas que de la chanson, elles composent aussi en fait. Parce que même pour ce qui est des arrangements, tout à l'heure, je disais qu'elles fredonnaient parfois. Mais justement, les instrumentistes en fait ont tendance à pas se remettre en question et du coup à critiquer la tonalité de la chanteuse qui ne va pas aller avec par exemple le texte d'origine parce que souvent c'est des reprises ou des standards et que la voix du stand enfin d'origine d'un titre est pas forcément exactement la même que la chanteuse qui reprend. Du coup la chanteuse va souvent amener elle sa composition, sa tonalité pour qu'il puisse jouer dessus et qu'elle puisse la chanter à son timbre de voix. Mais souvent, ça, les instrumentistes vont dire qu'en fait, elle est de moindre qualité et que quand même, elles sont un peu chiantes à devoir remanier les standards comme ça. Alors qu'à côté de ça, on sait très bien que le jazz, c'est aussi ça. C'est aussi remanier, se réapproprier, recréer avec une base parfois déjà existante et pas que à chaque fois des nouveaux morceaux, quoi.
Ah, loin s'en faut, ça fait vraiment partie des styles dans lesquels il y a un nombre infini de reprises, vraiment.
Donc voilà, on est dans ces registres-là. En tout cas, on a découvert pas mal de petites choses, mais loin du compte, il y en a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Et je pense que, par exemple, sur le site de Radio Rageuse, on mettra une bibliographie, mais surtout une discographie, parce que vraiment, en faisant cette émission, on a découvert plein de choses, et c'était chouette aussi pour ça de la préparer, parce que ça nous a permis de découvrir tout un monde, tout un univers, et quand bien même on ne sort pas des clichés, des stéréotypes, ça n'empêche qu'il y a une réelle force, que ces femmes sont vraiment combattantes, elles ont aussi des choses à dire, et même si, à des moments, les textes sont mielleux, la musique, elle, est de qualité. Donc on ne peut pas nier leur talent.
Voilà, l'émission touche à sa fin et les infos de la semaine, c'est la projection à la BAF de dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 17. C'est une projection sur le mouvement Idle No More. C'est contre l'invasion coloniale depuis 5 siècles qui a lieu au Canada. Il a été lancé par 4 femmes mettant en lumière les implications pour les nations, pour les Premières Nations, des nouvelles lois récemment mises en place par le gouvernement conservateur canadien, des lois liées à la politique canadienne d'assimilation des peuples autochtones, qui attaquent les terres réservées aux Premières Nations et les traités ancestraux qui ont pour but de faire disparaître les droits et les cultures des peuples autochtones. Et aussi, on peut dire que le 14 février, il y a un flash mob féministe quelque part dans Grenoble. Donc, si vous avez Facebook, vous pouvez trouver où trouver et comment danser sur ce flash mob féministe. Ah oui, je voudrais faire aussi une spéciale dédicace à ma tante Sylvie et ma cousine Ella, qui sont des jazzwomen de talent et qui jouent dans leur groupe qui s'appelle les Amazones.
Est-ce qu'on peut trouver des... ou les écouter?
Ha ha.
tout. Bon, eh ben, il va falloir chercher ou alors il faudra piocher dans la discothèque de notre ami.
Et merci Hélène, notre invitée spéciale.
Ah ben, c'était un plaisir.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.